9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média ce matin, on est très heureux, Philippe, d'accueillir Karine Guyoc.
Bonjour Karine Guyoc.
Bonjour, merci
votre
de
visage,
me recevoir.
Merci à vous d'être ici. Votre visage est bien connu des téléspectateurs de M6. Vous présentez le 12-45 depuis 2012. C'est le rendez-vous d'information de la mi-journée.
Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45, vendredi 28 février. Voici les titres. Le coronavirus gagne du terrain en France. Si les autorités ne parlent pas encore d'épidémie, le nombre de cas interpelle désormais. En 24 heures, il a en effet doublé, passant de 18 à 39 personnes contaminées par le Covid-19.
Voilà, c'est pour qu'on entende le son de votre voix, c'était pas pour donner des infos sur le coronavirus.
Si on m'entend dans le générique, j'ai eu un petit stress en me disant mais je suis à l'antenne.
Ah oui, ça fait toujours peur ça.
Ça fait toujours peur, j'ai l'impression d'être en retard, de pas avoir tout fini d'écrire.
Vous faites l'émission tout à l'heure.
Oui, oui, tout à fait.
C'est vous qui écrivez le journal.
Absolument.
Donc du coup.
Hein. Oui, oui, comme tous les présentateurs de JT, bien sûr, moi j'écris mes textes. Xavier Dumoulin aussi, Nathalie Renaud. Enfin voilà, c'est le principe quand on est présentateur de JT. Ce que les gens ignorent très souvent,
dites-le.
Ils pensent qu'on est mannequins et qu'on prenne notre corps et notre voix à l'information. Pas du tout. On écrit nos JT, on est rédacteur en chef, avec bien sûr des rédacteurs en chef. Moi, en l'occurrence, je travaille depuis près de 10 ans avec Frédéric Dupont. Mais voilà, c'est le principe quand on est présentateur de JT, c'est qu'on est responsable de ce que l'on dit et donc on écrit bien sûr nos textes.
Ici, c'est des chiffres et des lettres. Vous venez de parler des mots. les chiffres, comment ça marche? Vous avez les audiences?
Ça marche bien, oui, oui, en effet. Alors, cette saison, on sort de deux saisons de très, très gros records, très réguliers d'ailleurs, ce qui est toujours extrêmement... C'est compliqué, vous savez, un JT, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas teaser, vous ne pouvez pas faire de promotion, vous ne pouvez pas annoncer ce qu'il y aura dans l'actualité. Donc forcément, vous êtes sur un programme qui ne peut pas vraiment reposer sur des audiences, sur des attentes d'audience. Mmh. Donc quand ça fonctionne, ça veut surtout dire que les téléspectateurs sont au rendez-vous et que le JT est de qualité. Donc en termes d'audience, on est cette saison autour d'1 300 000 téléspectateurs, 1 400 000, avec une part d'audience sur les FRDA, donc les femmes responsables des achats.
C'est le nom poli pour dire la ménagère.
Voilà, autour de 21% de mémoire.
C'est votre cible,
oui.
La FRDA.
En l'occurrence, oui. Enfin, tous les téléspectateurs sont notre cible, mais les FRDA en particulier, bien sûr.
Non, je veux dire par là que M6 étant une chaîne privée, c'est une cible privilégiée.
Oui, bien sûr, bien entendu.
Sur laquelle se focalise moins le service public, par exemple.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui fait la différence entre votre JT et le 13h de TF1 ou le 13h de France 2, à part le fait évidemment que vous passez avant?
On a cassé les codes en fait, ça c'est vraiment la marque de fabrique d'M6. Effectivement, on passe avant, on a cassé les codes parce qu'on a mis en place une nouvelle façon de raconter l'information en étant debout notamment, en n'ayant pas de pupitre, ce qui amène un côté très professoral. Donc on a aussi beaucoup joué sur la proximité, c'est très important, c'est vraiment le cœur de nos JT, avec des JT didactiques, très modernes. C'est vraiment notre marque de fabrique et je pense que c'est ce qui nous différencie de nos concurrents. En l'occurrence, l'information, vous la retrouvez sur TF1, France 2, France 3, M6. Chez nous, vous avez évidemment le Hard News et une partie magazine aussi. Nos JT, ce sont des journaux qui se regardent comme on feuillette un magazine. Je pense que tout ça, ça participe de ce qui fait notre différence et donc le succès aussi de nos éditions.
Et votre marque de fabrique à vous, est-ce que vous en avez une? Pourquoi ça vous fait sourire?
C'est toujours très compliqué de répondre à cette question. Je ne saurais pas vous dire ce qui fait que je suis différente d'un autre téléspectateur. On a tous notre patte. Après, je pense que je suis assez naturelle. Je ne sais pas d'incarner une présentatrice. Je ne joue pas la présentatrice de JT.
Ouais. Déjà, vous venez de faire un très joli lapsus. Parce que vous avez fait attention à ce que vous avez dit.
Non.
Vous avez dit, je ne sais pas ce que j'ai de différent d'un autre téléspectateur. Au lieu de dire d'un autre présentateur.
Oui, c'est vrai.
Ça veut dire ce qu'on...
Mais je suis téléspectatrice de mon propre JT. Donc en effet, je le regarde sans doute comme les téléspectateurs chez eux en même temps.
En
fait, je regarde les JT. Bah oui, je regarde les reportages et je me plonge dans le reportage comme un téléspectateur.
Est-ce que vous vous regardez après coup?
Avant, je le faisais, aujourd'hui beaucoup moins, parce que c'était important pour moi de corriger des choses, justement de vérifier est-ce que le ton était le bon, est-ce que la posture était la bonne. Parce que quand on présente un JT, on joue sur des subtilités, c'est-à-dire que vous passez d'informations parfois très graves à d'autres beaucoup plus légères, et il faut savoir ajuster le ton en fonction du contenu de l'information. Et donc c'était important pour moi de regarder. Aujourd'hui, ça allait un petit peu moins.
Stratégie, le magazine disait que vous ne vous interdisez pas de rire à l'antenne ni d'avoir les yeux humides. C'est vrai.
Oui, c'est vrai. c'est vrai.
Vous pleurez parfois pendant le JT ?
Alors, pleurer à chaudes larmes, non, bien sûr, mais il peut m'arriver, oui, d'être extrêmement ému et que ça se ressente, en effet. Parce que je suis téléspectatrice du JT. Et il m'arrive aussi de rire. Alors, ça, c'est l'un des grands défis de mon rédacteur en chef, Frédéric Dupont, et notamment de Pascal Melcognon. Il tente de me mettre des pièges dans la minute web, à la fin de la minute web. Donc, c'est cette minute où on passe en revue un petit peu l'actualité d'Internet et notamment des images un peu drôles. Et ils finissent toujours par l'image la plus hilarante en essayant de me faire craquer. Mais je tiens le coup, mais je ris souvent.
Non, mais rire sur un truc drôle, ça va. Est-ce que vous avez déjà ri comme ça, ex nihilo, sans qu'on s'y attende ? Est-ce que vous êtes déjà vous-même surprise
à rire ? Non. D'avoir un fou rire décalé sur une information grave, non, ça non.
D'accord.
Jamais, non.
Et vos dernières larmes, c'était quand ? Vous vous souvenez du sujet ?
Non, mais il est possible que ça ait été... Alors attendez, non, je ne me souviens pas exactement du sujet sur lequel j'ai pu avoir une émotion, mais c'est très fréquent.
D'accord. Nous aussi, vous savez quoi ? On marque une pause.
Elle présente le 12h45, le rendez-vous d'information de la mi-journée sur M6. Karine Gueuc est notre invitée et on continue à parler de son actualité dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous connaissez sa voix et son visage si vous êtes branché sur M6 à 12h45, car elle vous présente son JT chaque jour. C'est Karine Gueuc qui est notre invitée ce matin. Philippe, on peut aussi l'entendre ce matin sur Europe 1 et la voir sur europe1.fr.
Exactement. Et elle ne fait pas que présenter son JT, elle l'écrit également. Tous les présentateurs de JT, en tout cas ça devrait être la règle, écrivent leur JT. Votre papa est guadeloupéen, il était marin puis entrepreneur. Votre maman martiniquaise, elle était prof. Vous avez grandi en banlieue parisienne avant de partir à l'âge de 8 ans en Guyane. Et vous avez écrit votre premier article à 13 ans pour France Guyane. Sur quoi avez-vous écrit ?
C'était sur une artiste guadeloupéenne. Non, c'était sur Jean-Michel Rotin, qui est un chanteur guadeloupéen.
D'accord.
C'était une star dans les années 90. On lui doit quelques tubes d'ailleurs. Et j'étais très heureuse de pouvoir le rencontrer. J'avais 13 ans, donc j'ai commencé à approcher des artistes pour leur poser des questions. C'était un bel exercice. Et d'ailleurs, je suis très triste parce que France Guyane et France Antilles sont les quotidiens de l'outre-mer caribéen ont fermé le mois dernier.
Mais on dit qu'un repreneur miracle pourrait revenir.
Peut-être.
Vous suivez cette actualité-là ?
Non, pas de très près, mais je l'espère parce que c'est très important déjà pour la presse et pour la population. C'est extrêmement important qu'il y ait une presse quotidienne. Et puis parce qu'évidemment, ces titres-là me sont particulièrement chers. Je leur dois beaucoup.
On avait justement reçu ici des représentants de France Antilles en direct. Pourquoi vous leur devez beaucoup ?
Parce que j'ai écrit mes premiers articles pour France Guyane.
Et vous imaginiez ensuite devenir journaliste ?
Pas du tout. Pas du tout. Je ne savais même pas que ça s'appelait journaliste, pour être honnête avec vous. Quand j'ai écrit mes premiers articles, j'étais très curieuse. J'avais envie de raconter toutes mes histoires.
Mais quand vous aviez 13 ans, vous imaginiez quel parcours professionnel ? Vous vouliez faire quoi ?
J'imaginais être interprète parlementaire. J'imaginais faire peut-être de la musique, enseignante. Éventuellement, ma mère était enseignante. Il y avait un peu une battle à la maison entre mon père et ma mère. Parce que mon père ne voulait pas que je parte dans le public et ma mère voulait que je sois enseignante. Donc voilà, finalement, je crois que la voie du journalisme était très bien. Elle s'est offerte à moi très tôt.
Dans une interview au Bondy Blog, vous dites « Je n'avais pas nourri d'ambition de présenter le JT de M6. J'étais une femme noire. Je n'y pensais même pas. Est-ce que c'était un double handicap d'être une femme et d'être noire dans les médias ?»
Ça l'est aujourd'hui encore.
Ça l'est,
bien sûr.
Ou est-ce qu'avec la discrimination positive, ça change ?
Écoutez, je ne peux pas vraiment parler de discrimination positive parce que les faits ne sont pas là pour le démontrer. En revanche, en ce qui concerne M6, pour le coup, c'est vraiment une chaîne qui est exemplaire dans le PAF sur ces questions-là. Depuis le début depuis le lancement d'M6, il y a toujours eu des noms blancs à l'antenne, que ce soit Claudie Sciard, Magloire, Charlie Nestor, Vincent McDoum, Karine Lemarchand, Aïda Touiri, enfin vraiment, la liste est longue. Et donc, si vous voulez, à M6, ce n'est pas vraiment un sujet. En revanche, c'était des rêves que je ne me permettais pas nécessairement d'avoir parce que je ne pensais pas que c'était possible. Et puis voilà, finalement, l'histoire m'a démontré le contraire, mais c'est vraiment la volonté de la direction d'M6.
La présence d'Harry Roselmack, je vais parler d'une chaîne qui n'est pas la vôtre, comme ça on sera tranquille. La présence d'Harry Roselmack au JT de 20h a été énormément suscitée par un coup de fil de Nicolas Sarkozy aux dirigeants de TF1 en disant il faut mettre un noir aux 20h.
Oui.
Est-ce que vous approuvez la discrimination positive ou est-ce que vous dites « moi je vais être jugé que sur mon seul talent ?»
Mais en fait, c'est pas compliqué de trancher ce débat, mais concrètement, comment faire pour que ça change ? Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Si pour ça, il faut mettre en place une discrimination positive et permettre à tous de pouvoir réaliser leurs rêves en fonction de leurs compétences et de leurs talents, alors mettons en place une discrimination positive. Mais concrètement, lorsqu'on laisse à chacun le choix d'embaucher qu'ils veulent, ça ne se fait pas. Donc moi, ma question, c'est ça, c'est comment faire pour que ça se fasse et que finalement, à l'antenne, on retrouve une pluralité qui soit à l'image de la société française.
Ce que j'ignorais totalement avant que vous veniez aujourd'hui, c'est qu'entre M6 et vous, c'est une histoire qui dure.
Ouais.
Vous étiez déjà à M6 en 2001, vous étiez à Turbo.
Oui. Tout à fait, j'ai démarré à Turbo.
Mais vous êtes fan de voiture ou c'était comme ça ?
Non mais c'est impossible, moi j'ai travaillé 10 ans à Turbo, on ne peut pas vivre, je dis souvent on ne peut pas vivre à Turbo si on n'aime pas l'automobile. J'adorais l'automobile, bien sûr.
Vous savez qu'il y a des gens qui font des émissions dont ils détestent le sujet.
Ah, non, là c'était pas possible,
c'est
c'était
un
vraiment c'est une passion, c'est un bonheur, j'ai vécu 10 ans extraordinaires dans cette émission avec que ce soit Safet Rastoder, Étienne Bruet et puis bien sûr Cyril Drevet, Dominique Chapatte qui présente l'émission depuis ses débuts.
Et vous êtes également auteur, compositeur, interprète ?
Ouais.
Vous faites de la musique, vous avez été en tournée en 2009 avec le chanteur Dominique Panol, avec qui vous avez enregistré Au Combat, on peut le passer.
Au c'est, combat.
Je précise, Au Combat, c'est vous qui avez écrit le texte.
Oui. Les voix marchent, les lire et s'égarer. Je me revois parmi eux m'épuiser. Au pied du monde, ils sont découragés.
La musique, vous continuez ?
Oui, bien sûr, je fais du jazz.
Ouais.
Je chante, j'ai d'ailleurs un concert le 19 mars au Jazz Club Étoile à Paris, Porte Maillot, ce qui est un très très bel endroit, c'est un lieu mythique. Et je joue avec Mario Canonge, avec Michel Zinino à la contrebasse. Enfin, voilà, Mario Canonge qui est un très grand pianiste, pour ceux qui ne connaissent pas bien le jazz. En tout cas, sachez qu'il y a de très très grands pianistes français, en l'occurrence antillais, dont la musique était étudiée aux États-Unis, dans de grandes universités. Enfin voilà, et j'ai la chance de jouer avec ces gens-là.
Il est 9h54, nous sommes en direct.
Je suis en retard.
Mais c'est écoutez, c'était juste un test et ça a marché. Je vois tout de suite le stress que c'est. Normalement, à ce temps-là, vous êtes dans votre bureau en train d'écrire.
Oui, là, je suis sans EO.
Un grand, grand merci d'avoir fait un écart et d'être venu nous voir, Karine Guyoc. Le 12h45 de M6, dont on entend le générique, c'est maintenant. Et le concert au Jazz Club Étoile à Paris, le 19 mars. Merci encore.
Merci à
Enchanté.
Vous.
Enchanté.
Dans un instant, poursuivons notre heure culture, mais juste avant, place aux digressions des radoteurs. On retrouve votre duo, Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.